Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de la lutte contre le terrorisme, des interventions armées occidentales qui s'en réclament et de ce que tout cela implique, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Mathias Delory, chargé de recherche CNRS au centre Marc Bloch de Berlin, chercheur associé aussi au centre Émile Durkheim de Sciences Po Bordeaux, auteur d'un livre sorti aux éditions Amsterdam, « Ce que vaut une vie, théorie de la violence libérale ». Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre Jublin.
Alors, on est ici pour parler de cet ouvrage qui est extrêmement intéressant, de sciences politiques, qui est tiré de votre habilitation à diriger des recherches, je crois. Et on pourrait le ranger alors à la fois dans la catégorie des war studies, même si c'est un domaine qui est un peu flou dans le paysage universitaire français, et en même temps dans celle des études critiques, au sens où vous y portez un regard assez acide sur l'usage de la force ou de la violence, c'est selon, par les démocraties libérales, sur les raisonnements et sur les justifications qui sous-tendent cet usage, et sur ce que tout cela implique. Alors, je vais juste dire un mot en préambule de cette catégorie, et de cette tradition intellectuelle et académique, même des études critiques, pour les auditeurs du Collimateur qui n'en seraient pas familiers, simplement parce que je voudrais éviter en fait qu'on vous fasse un mauvais procès ou qu'il y ait des mauvaises critiques, disons, parce qu'on va voir au cours de la discussion que vous déconstruisez, même vous attaquez très fortement, ces doctrines et ces justifications de l'usage de la force, notamment militaire, par les puissances occidentales, ce que vous appelez les régimes libéraux. On aura l'occasion de revenir sur cette catégorie. Et je pense qu'en écoutant la discussion, certains auditeurs pourraient avoir une réaction un peu réflexe, qui peut aussi parfois me passer par la tête en lisant certaines études comme ça, qui serait de dire, bon bah ils critiquent beaucoup, mais qu'est-ce qu'ils proposent à la place? Il faut bien faire quelque chose, il pourrait être plus constructif au lieu de sonner la charge comme ça. Donc je pense qu'il est important de préciser dès le départ que c'est pas le propos des études critiques, de proposer des espèces d'alternatives de politique publique qui soient directement applicables, au sens où l'universitaire, le chercheur critique n'est pas un décideur politique, c'est pas le même rôle. Et donc c'est pas ce qu'il faut chercher dans ce genre d'ouvrage, une sorte de mode d'emploi alternatif de politique étrangère, mais c'est une critique qui permet d'interroger, de faire réfléchir et de faire retour sur ce qu'on fait, sur de grands phénomènes politiques et de société, comme par exemple la lutte contre terroristes, notamment à l'étranger, pour éventuellement, à terme, influencer et infléchir les orientations des décideurs politiques et ou militaires. Bref, c'était une parenthèse et un préambule peut-être un peu long, mais je voulais éviter qu'on parte sur un contresens, parce que je pense que ça peut alimenter un débat de qualité et tout à fait productif pour tout le monde. Mais encore faut-il, alors d'une part, réfléchir ensemble et pas s'ignorer, ce qui n'est pas toujours gagné dans ce domaine particulier, et par ailleurs, savoir vraiment ce que chacun essaye de faire pour ne pas partir sur des incompréhensions mutuelles. Donc, une fois que tout ça est dit et posé, j'aurais aimé peut-être que vous nous expliquiez le projet et le cadre de cet ouvrage, en nous dépliant peut-être ce sous-titre qui peut avoir l'air un peu cryptique au premier abord, « Théorie de la violence libérale ». Alors qu'est-ce que vous entendez par là? Quel était, disons, l'angle de cette étude?
Bien, d'abord, merci pour l'invitation. Avant de répondre à votre question, peut-être juste une parenthèse sur les approches critiques. Je suis tout à fait d'accord avec la présentation que vous en faites. Moi, je pense que je formulerais cependant les choses un peu différemment. Il me semble qu'il y a deux attitudes intellectuelles intéressantes du point de vue des sciences sociales. C'est la distinction qu'un chercheur en relations internationales qui s'appelle Robert Cox faisait entre la « problem solving theory » et la « critical theory », ce qui veut dire, en bon français, les théories appliquées et les théories critiques. À mon avis, ce sont deux démarches également intéressantes. La première, elle consiste à répondre de manière intelligente à des questions que se pose le pouvoir. Et la seconde consiste plutôt à interroger les questions que se pose le pouvoir. deux approches complémentaires. Une illustration que donnait Robert Cox à l'époque, c'était la question de l'économie verte ou du développement durable dans les années 80. C'était une question que ne se posaient pas les gouvernants dans les années 80. Ce sont les approches critiques qui ont amené cette question. C'était une manière de décentrer le regard. Donc voilà.
Donc on aura compris que c'est résolument dans la deuxième catégorie, donc la théorie critique, c'est-à-dire moins interroger vraiment comment résoudre les problèmes, par exemple les apories ou les blocages, en l'occurrence des interventions militaires extérieures occidentales, que de poser la question de pourquoi on les fait et de comment est-ce qu'on en vient à poser le problème comme ça, comment est-ce qu'on en vient à cette situation, disons.
Voilà. C'est un ouvrage qui s'inscrit dans la perspective des approches critiques, effectivement. Je pose des questions qui ne sont pas des questions posées par le discours dominant. Il y a quelques éléments quand même en conclusion qui peuvent, à mon avis, avoir une application
bien sûr,
concrète.
On y reviendra nécessairement. Et donc, cette théorie de la violence libérale, alors, théorie ça va, mais expliquez-nous, on va peut-être plutôt déplier les deux autres termes qui sont violence et surtout libérale, parce que ça définit vraiment, disons, le champ de votre ouvrage.
Ouais. Alors, l'objet premier du livre, c'est la guerre contre le terrorisme, en gros initiée par les États-Unis en 2001 avec le soutien de leurs alliés. Et alors oui, violence libérale, c'est un petit peu un oxymore. Moi, j'utilise le terme libéral de deux manières. D'abord, d'une manière qu'on appelle parfois nominaliste. Nominaliste, ça veut dire qu'on est à l'écoute des termes utilisés par les acteurs. Et donc, je constate que dans les récits de justification de la guerre contre le terrorisme, les partisans de cette guerre se présentent comme des libéraux. Ils expliquent que c'est une guerre contre les ennemis de la liberté, les ennemis de la vie, les ennemis de la démocratie. Et donc je me propose de prendre au sérieux ce discours qui consiste à se présenter soi-même comme un sujet libéral en guerre contre un ennemi de la démocratie libérale. Et en même temps, j'utilise ce terme libéral d'une manière aussi réaliste au sens non pas des théories des relations internationales réalistes, mais au sens du réalisme philosophique, c'est que je constate que les registres de justification de cette guerre emprunte à une tradition libérale au sens politique du terme qu'on peut faire remonter à l'époque moderne et plus précisément aux théories du contrat social. Alors plutôt dans la version Locke que Hobbes. En tout cas, ces théories qui sont des récits de fiction, des récits qui nous disent certainement peu de choses sur le processus réel de construction des États, mais qui nous disent beaucoup de choses sur la manière avec laquelle les libéraux pensent l'État. Les libéraux pensent l'État comme une solution au problème du crime. Une solution au problème du crime.
C'est-à-dire, oui, c'est ça, vous y avez fait référence en disant que c'était un peu un oxymore. C'est-à-dire, il y a cette idée, cette fiction, en tout cas, c'est cette idée, dans la théorie libérale, que le libéralisme et le côtoiement, en tout cas, de régimes libéraux, de sociétés libérales, permet, si ce n'est concrètement, en tout cas à terme, d'éliminer la guerre, d'éliminer le conflit, d'éliminer même la violence. Or, le constat de départ que vous faites, et c'est à partir de là que tout se déploie en quelque sorte, c'est que, en fait, concrètement, les démocraties qui se veulent libérales, alors ensuite qu'elles le soient ou pas, c'est une question dans laquelle on peut entrer, mais qui se déclarent libérales, en tout cas, sont beaucoup en guerre, notamment les États-Unis, mais pas que, et que, donc, il faut bien faire un sort, ou en tout cas, il faut bien entrer dans cette contradiction apparente de régimes qui se veulent pacifistes, mais de fait sont en guerre.
Voilà. On peut peut-être dire un mot des grandes théories sur l'articulation du libéralisme et de la violence. Il me semble qu'il y a deux grandes théories antinomiques, et moi j'essaye de me tenir à distance de ces deux théories, ou plutôt de trouver une troisième voie. Il y a une première théorie qui est une théorie très libérale et à mon avis peu réflexive, qui consiste à dire que, comme vous l'avez dit à l'instant, le libéralisme politique serait une tradition qui pacifie le monde, qui contribue à réduire la violence dans le monde. C'est une théorie qu'on retrouve en relations internationales dans une sous-théorie qu'on appelle parfois la théorie de la paix démocratique, qui parle d'un constat qui est vrai sur le plan statistique, que les démocraties libérales se font pas ou très peu la guerre entre elles, et du coup...
Mais jugez pas de démocratie libérale pour que, juste, on reste pas dans... Enfin, là, on parle des États-Unis, alors même si, bon, on pourrait en discuter, mais de l'Angleterre, de la France, de la plupart des pays européens, des pays qui se veulent comme des démocraties dans un régime de liberté qui garantissent un certain nombre de droits aux citoyens. C'est de ces pays-là qu'on parle. Quoi.
Oui, donc c'est une catégorie qui est discutée, parce qu'on peut toujours dire qu'il y a plutôt un panel de gris entre les dictatures et les démocraties libérales, mais On peut aussi se mettre d'accord sur des indicateurs, pluralisme politique, élections libres, etc. Et à ce moment-là, effectivement, les pays que vous avez cités sont plutôt classés du côté des démocraties libérales.
Donc ça, c'est la première théorie, c'est l'idée que c'est, qui est plutôt empiriquement vrai, que les grandes démocraties se font concrètement peu ou pas la guerre, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elles soient complètement en paix.
Voilà. Alors elles font en revanche beaucoup la guerre aux non-démocraties. Donc là, c'est une réalité statistique qui est également étudiée. Donc ça a donné lieu à une autre théorie qu'on appelle la théorie de la guerre démocratique, qui est une théorie surtout développée dans l'espace anglophone. Mais là, c'est pas exactement la deuxième théorie sur l'articulation violence-libéralisme dont je voulais parler. Je voulais parler plutôt de la théorie schmittienne. Donc Carl Schmitt, qui est un juriste, philosophe allemand controversé parce qu'il a... Il a été compagnon de route du nazisme, mais qui a néanmoins écrit des choses intéressantes et en tout cas qui nourrissent une partie de la théorie critique sur le rapport libéralisme et violence. Carl Schmitt nous dit exactement l'inverse de la théorie de la paix démocratique. Carl Schmitt nous dit que les libéraux ont tendance à être violents, bon, comme d'autres, mais surtout, dans l'exercice de la violence, à se montrer plus inhumains. Que d'autres traditions, comme par exemple traditions plus aristocratiques. Et l'argument de Carl Schmitt, c'est que les libéraux ont un horizon humaniste et cosmopolitique, et donc ils prétendent faire la guerre au nom de l'humanité. Et quand on prétend faire la guerre au nom de l'humanité, on a tendance à catégoriser l'ennemi comme un ennemi de l'humanité. Et il y a des illustrations de ce mécanisme. L'illustration, à mon avis, la plus évidente, c'est la notion de combattant illicite, adopté par le président Bush en janvier 2002 pour qualifier les combattants d'Al-Qaïda en Afghanistan. Une catégorie qui, en gros, sort ces combattants des deux régimes juridiques qui, traditionnellement, peuvent accueillir des combattants ou criminels, à savoir le droit de la guerre régulier, donc qui donne un statut à l'ennemi, au combattant ennemi, et le droit domestique qui donne un statut aux criminels qui peuvent être jugés, enfin qui doivent être jugés par un tribunal régulier.
Donc, précisons simplement que vous n'êtes pas pour autant du point de vue, vous adoptez pas particulièrement le point de vue schmittien, c'est simplement on peut tempérer une théorie avec l'autre et donc en arriver à cette espèce de moyenne voie que vous avez essayé de trouver de comment caractériser cette violence concrète des pays libéraux qui existe, qui a certains côtés qui peuvent faire penser à la théorie schmittienne, sans pour autant y adhérer complètement.
Voilà, donc moi je propose une troisième voie que j'emprunte à un philosophe qui s'appelle Walter Benjamin, dans un texte célèbre, souvent cité mais rarement lu, qui s'intitule « Critique de la violence ». Walter Benjamin constate que les libéraux, en fait, ont un rapport ambivalent avec la violence. Et moi, je crois beaucoup en cette idée. Je pense que les libéraux conçoivent la violence comme un problème, et donc ils ont tendance à la catégoriser comme un crime et à réfléchir à des solutions politiques pour arrêter le crime. Et en même temps, nous dit Walter Benjamin, les libéraux n'ont pas trouvé d'autres solutions en dernière instance, quand la diplomatie a échoué, quand le droit n'est pas respecté, que la violence pour arrêter la violence. Et donc les libéraux appellent en général cette violence qui arrête la violence criminelle, ils l'appellent plutôt la force. Et tout le sujet de mon livre, c'est de réfléchir sur cette notion de force et sur les effets qu'elle peut produire en termes d'euphémisation de la violence que j'appelle libérale.
Alors, non seulement d'euphémisation de la violence, mais aussi la question corollaire que vous étudiez beaucoup et qui va vraiment avec, c'est la question de la représentation qu'on se fait de l'ennemi. Puisque pour euphémiser la violence, c'est-à-dire pour la réduire, pour ne pas la regarder directement en face, c'est important de ne pas regarder directement en face les personnes sur qui elle s'exerce. Et donc c'est vraiment très important cette idée, cette ambition de poser cette question de la représentation qu'on est obligé de se faire pour pouvoir ensuite s'autoriser tout ce que ça implique de traiter un ennemi comme tel. Simplement, la question, juste pour rester un peu plus sur le mot libéral, donc là, on a vraiment l'idée qu'il s'agit d'une tradition philosophique qui aussi qui se voit dans un certain nombre de régimes politiques. Mais si vous êtes politiste, vous étudiez des pays concrets réels qui ont des idées, mais qui agissent géopolitiquement. Qui est-ce que vous mettez derrière ce label? Quels sont les pays, disons, que vous étudiez à ce titre, qui sont engagés, donc on l'a compris, dans la lutte contre terroristes?
Alors, moi, je me suis intéressé à la guerre contre le terrorisme initiée par les États-Unis en 2001, même si on pourrait dire qu'elle a commencé dans les années 1990, mais en 2001, il y a clairement une accélération. Et donc, c'est une coalition, finalement, à géométrie variable. Si on prend l'exemple de la France a participé à la guerre en Afghanistan, à peu près toutes les opérations dirigées par les États-Unis, à une exception hyper importante, la guerre d'Irak entre 2003 et 2014. Exception hyper importante, parce que cette guerre d'Irak a causé plus de dégâts, peut-être, que beaucoup d'autres opérations. Donc moi je m'intéresse à ce que j'appelle ici les pays de l'espace euro-atlantique, en gros c'est l'Europe et l'Amérique du Nord, à géométrie variable encore une fois, en fonction des opérations, et sachant qu'il y a des alliés périphériques qui ne sont pas toujours libéraux d'ailleurs, par exemple l'Arabie Saoudite, le Qatar, Israël est aussi un allié sans être exactement dans l'espace euro-atlantique. Voilà les pays sur lesquels j'ai voulu travailler.
Il y a l'Australie aussi. Enfin, bon, c'est là que l'euro-atlantique est un peu problématique, parce que l'Australie est un allié direct de cet ensemble stratégique, sans être évidemment dans l'espace.
Disons qu'il y a une institution qui donne un petit peu de chair à cet espace, elle s'appelle l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Et voilà un petit peu le cœur, même si le noyau, c'est Washington.
Oui, mais alors c'est intéressant. Alors. C'est-à-dire, une des questions qui se pose derrière ça, et pour commencer peut-être à vous pousser un petit peu là-dessus, c'est l'unité, ou du moins la continuité, du coup, que vous posez derrière le mot de libéral, au sens où beaucoup de ce que vous prenez en compte, vous l'avez dit, concerne beaucoup de la politique américaine post-11 septembre, et notamment, on en reparlera, mais il y a tout un volet, un pilier vraiment de votre enquête qui est sur les politiques d'interrogatoire, voire de torture américaine. Et là, du coup, ça pose des questions sur le fait que vous étudiez un groupe unifié, parce que même s'il y a des similarités sur certains volets de l'action militaire, même s'il y a des alliances géostratégiques qui sont objectives, il y a aussi certaines choses qui sont très propres à un contexte politique et idéologique états-unien, qui n'engagent pas forcément l'ensemble de ce bloc libéral que vous identifiez, et qui, du coup, est forcément aussi un peu pris quand même par capillarité dans la critique que vous faites des actions contre-terroristes américaines.
Vous avez raison. J'ai choisi, c'est un choix qui peut se discuter, mais j'ai choisi d'essayer de donner une image globale de cette guerre, plutôt que de m'intéresser à toutes les différences, à toutes les spécificités. Je pense qu'il y aurait un autre livre à écrire, ou peut-être existe-t-il, sur une approche française de la guerre contre le terrorisme qui serait différente de l'approche états-unienne. Donc, je suis 100% d'accord avec cette objection. Simplement, ce sont des choix de connaissances. Hein. Et je pense qu'il est aussi intéressant de se donner une représentation de ce qu'il y a de commun, finalement, au-delà des différences entre tous ces pays qui, vous avez raison, sont différents, ont des traditions différentes, et même en termes d'action guerrière concrète, des règles d'engagement différentes. Et donc, pour comprendre ce qu'il y a de commun, moi, j'ai choisi de regarder deux cas, a priori, hyper différents. Donc les deux cas que j'ai regardés, c'est la politique d'interrogatoire renforcée mise en place par les États-Unis en 2002, donc que d'autres appellent torture, y compris le Sénat états-unien aujourd'hui. D'un côté, donc on est dans un moment paroxystique en 2002-2003, donc après le 11 septembre. Et puis par ailleurs, dans la torture, il y a un rapport au corps entre les bourreaux et les victimes, si l'on veut, qui est... ils sont concrètement, les victimes sont dans les mains des bourreaux. Par ailleurs, c'est un cas où on a a priori, en tant que sujets libéraux, et je m'inclus moi-même dans cette catégorie, un rejet quasi viscéral, moralement, par rapport à ce type de pratique. Et de l'autre, je me suis intéressé aux aviateurs français. J'ai fait des entretiens avec des aviateurs français, surtout en 2012-2013, mais également au cours des années qui ont suivi, qui ont participé à des opérations contre-terroristes en Afghanistan et un petit peu au Mali.
Mais ouais, c'est très intéressant parce que c'est un double prisme qui est totalement, vraiment à deux pôles opposés du spectre, qui du coup élimine aussi toute une continuité, parce que les armées occidentales font plein de choses, sont sur le terrain de plein de manières différentes. Mais donc quel sens vous trouviez au recroisement de ces deux pôles extrêmes que sont les bombardements, l'action aérienne et la torture américaine?
Ben justement, les bombardements aériens français sont a priori... ultra différent de la politique d'interrogatoire renforcé. Donc si dans la politique d'interrogatoire renforcé, les corps des uns et des autres se mêlent, là au contraire, on donne la mort à distance. Par ailleurs, la politique d'interrogatoire renforcée est considérée comme illégale du point de vue du droit international par à peu près tout le monde, sauf les juristes payés par l'administration états-unienne, alors que les bombardements français sont d'une manière générale légaux au sens où ils respectent le droit des conflits armés, les civils ne sont pas visés, le principe de proportionnalité est respecté. Moi-même aussi, je dois dire, j'ai un rapport moralement a priori différent à ces deux cas. Il se trouve que j'ai des amis pilotes, je suis dans un rapport normatif différent. Donc il m'a semblé intéressant...
Vous n'avez pas la même antipathie pour les pilotes français que pour les bourreaux américains?
Disons qu'a priori, non, je suis proche socialement également des pilotes. Moi, l'enquête que j'ai faite a été un plaisir. J'ai retrouvé des copains déjà, et puis par ailleurs... socialement, on est très proches, en termes de niveau d'études, de rapport à la chose militaire. Moi, je ne suis pas particulièrement militariste, mais pas particulièrement antimilitariste non plus. Et souvent, les pilotes font le choix de ce métier pour des raisons plus proches de la passion de l'aéronautique que de la chose militaire. Donc, on était assez proches. Et du coup, du point de vue de la construction de l'objet de ma recherche, c'est aussi intéressant d'avoir cette proximité avec les uns et distance avec les autres, parce que ça, je crois que cela m'a aidé à trouver un juste milieu critique. Voilà. Mais alors, pour en revenir à votre question de fond qui est très importante, c'est en sciences politiques, on considère qu'il y a plusieurs manières de faire de la comparaison, mais il y a une manière parmi d'autres qui est intéressante, et c'est celle que j'ai voulu faire, c'est de comparer des cas a priori très différents pour voir ce qu'ils ont de commun. Et ça renvoie à... une démarche qu'on retrouve par exemple chez le philosophe Michel Foucault, qui nourrit beaucoup mes travaux, savoir l'idée qu'il y a, au-delà de la diversité sociale, au-delà des classes sociales, au-delà de tout ce qui peut fabriquer de la diversité dans ce monde, et en matière contre-terroriste, au-delà des différences entre les États-Unis et la France, il y a peut-être un fond commun qu'il est intéressant d'objectiver. Et j'irai même plus loin, c'est que moi je crois avoir objectivé dans ce livre quelque chose qui n'est pas spécifique aux militaires, qui sont des raisonnements qui nous constituent toutes et tous, des raisonnements que j'ai envie d'appeler libéraux, pour des raisons sur lesquelles on va pouvoir revenir peut-être.
Oui, mais alors notamment des raisonnements, disons, de justification de la violence, de lui donner une sorte de corpus, de corpus concret de principes, pour la justifier, pour vivre mieux dans une certaine mesure avec l'idée de la violence ou de la force. Et ça a aussi des conséquences sur la manière dont on perçoit l'ennemi, donc comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Mais alors je pense, soit dit en passant, que c'est très important d'insister là-dessus, c'est sur le fait que vous prenez deux pôles. Je veux dire que c'est pas une enquête exhaustive, ça n'a pas vocation à détailler exactement tout ce que font les armées occidentales hors de leurs frontières. Euro-Atlantique, Occident, le concept d'Occident est un peu plus compliqué à manier, mais en tout cas toutes les armées euro-atlantiques hors de leurs frontières, et c'est vraiment en ça que ça fait partie de ce qu'on appelle les études critiques, c'est-à-dire il s'agit de faire surgir du sens et de donner à réfléchir à partir de quelques exemples. Il ne s'agit pas de faire un bilan total et globalisant de l'action militaire euro-atlantique, enfin disons des démocraties libérales dans le monde depuis 2000. Simplement, j'ai quand même aussi interrogé le corpus d'une autre manière, d'un autre angle. C'est pourquoi ne pas... c'est-à-dire, c'est du point de vue comparatiste, en quelque sorte, parce que ce régime libéraux ne sont pas les seuls à faire du contre-terrorisme. Il y a d'autres puissances qui sont d'ailleurs pas forcément culturellement très loin. Il y a la Russie, il y a la Turquie, qui font du contre-terrorisme et qui, soit dit en passant, le font souvent avec... disons, une tolérance aux victimes collatérales qui est bien supérieure à ce que font les régimes que vous étudiez. Donc, en quelque sorte, pourquoi ne pas les inclure, ou en tout cas les introduire dans la réflexion, au sens où, du coup, on a l'impression que ce que vous identifiez, c'est une particularité vraiment occidentale et libérale absolue, alors que il y a des choses similaires qui se font ailleurs dans le monde, disons.
Oui, alors elles sont similaires, mais à mon avis, elles sont aussi différentes, pour la raison que vous avez indiquée. En sciences politiques, on parle parfois d'une manière libérale de faire la guerre. C'est un petit peu ce dont je parle dans mon livre. Une manière libérale de faire la guerre, c'est-à-dire que Les démocraties libérales font la guerre de plusieurs manières, et il y a toute une critique de la guerre contre le terrorisme qui insiste sur les pratiques illibérales des démocraties libérales. Donc, autrement dit, les frappes de drones illégales, les assassinats ciblés, des massacres ou des complicités de massacres qui peuvent être commises.
C'est-à-dire en quoi les armées libérales dérogent à leurs principes affichés,
voilà, donc il y a toute une littérature là-dessus, qui est une littérature plutôt d'inspiration schmittienne, qui est une littérature qu'on retrouve aussi dans de nombreux essais. Par ailleurs, des militants anti-impérialistes reprennent à leur compte cette idée. Donc il y aurait une manière illibérale de faire la guerre que les démocraties libérales utiliseraient parfois. Et je pense que dans cette caractérisation de la guerre contre le terrorisme, il y a un petit peu, on a vu le souvenir des guerres coloniales. Peut-être que vos auditeurs connaissent la notion d'ennemi complémentaire chez Germaine Tillon. Germaine Tillon, pendant la guerre d'indépendance algérienne, disait en gros que il y avait du terrorisme d'un côté et de la répression qui ressemblait beaucoup au terrorisme de l'autre. Et donc il y a un petit peu cette image que les terroristes, ce seraient nous les guerriers du contre-terrorisme.
C'est-à-dire que pour combattre le terrorisme, il faudrait s'autoriser le même genre de choses que s'autorise le terroriste, et qu'en cela, les armées libérales deviendraient illibérales.
Exactement. Donc l'insistance sur les assassinats ciblés, sur les formes les plus paroxystiques de la torture, etc. Et moi, ce que je veux dire dans mon livre, c'est que, bon, certes, ça existe, c'est une partie de la guerre contre le terrorisme menée par les démocraties libérales, mais il y a une autre partie, qui est cette manière libérale de faire la guerre, qui est respectueuse concrètement du droit des conflits armés, au sens où les civils ne sont pas visés, et où la violence est proportionnelle à l'effet militaire recherché. Et mon argument, c'est que cette violence-là, elle est souvent appelée « force », et donc euphémisée, et elle passe sous les radars de la critique. Et donc moi j'ai voulu lui redonner son nom de violence, non pas pour la condamner moralement, parce que la condamnation morale de la violence n'a pas d'intérêt particulier, mais parce que je pense qu'il est important de ne pas euphémiser sa violence pour mieux évaluer sa justesse ou pas. Petite parenthèse, puisqu'on est à l'école militaire, moi je pense que les procédés d'euphémisation de la violence sont beaucoup plus forts dans le monde civil que dans le monde militaire, par ailleurs. Les pilotes que j'ai interviewés sont en général assez conscients de ce qu'ils font.
Alors, on a bien compris donc cette espèce de ces préalables, disons, cet angle de votre enquête et de votre réflexion, et aussi ce qu'elle cherche à faire du coup derrière. Mais si on entre un peu dans le concret et sur cette donc violence libérale, cette violence en tout cas de ces pays qui se veulent des démocraties libérales, alors peut-être repartons du préalable et de cette idée de terrorisme, de lutte contre terrorisme. C'est-à-dire quelle place est-ce que vous donnez à la justification par le terrorisme de ces actions occidentales. C'est-à-dire, comment est-ce que tout ce qui se déploie depuis 2001, et évidemment dans l'éventail de ce que vous étudiez, qui n'est pas tout, comment est-ce que tout ça se fonde rhétoriquement, intellectuellement, sur la justification par les attaques terroristes ?
Moi, je dirais qu'il y a un problème dans le récit de la guerre contre le terrorisme qui est lié à l'ambiguïté du terme terrorisme. Je pense que vos auditeurs sont familiers avec la critique du concept de terrorisme. Les terroristes des uns sont les combattants de la liberté des autres. Donc, c'est un concept qui est très difficile à manier du point de vue des sciences sociales. Néanmoins, il y a quand même une...
on va faire une parenthèse en disant qu'il y a le truc par les effets de... terroriste, c'est ceux qui essayent de terroriser une population par une action ciblée. Mais vous remarquez dans le livre, et vous n'êtes pas le premier à le faire, que c'est aussi ce qui correspond à un certain nombre de doctrines militaires, y compris par des armées occidentales, enfin la théorie du choc et de l'effroi, même les théories de bombardement stratégique, enfin l'idée qu'il s'agisse d'impressionner et de terrifier une population à partir d'une action violente, plus localisée, elle n'est pas en soi discriminante parce qu'elle peut exister dans plein, enfin elle peut être mise en œuvre par plein d'acteurs, y compris des acteurs qu'on n'a pas envie ou qu'on ne qualifie pas, disons, habituellement de terroristes.
Tout à fait. Les bombardements stratégiques sont, si on reprend cette définition du terrorisme, à savoir viser des civils pour générer des sentiments de terreur, sont probablement l'action la plus terroriste de l'histoire de l'humanité. Un rapport de l'armée états-unienne de 1947 qualifiait encore ces bombardements de terreur. Cette technique guerrière, elle est de moins en moins, voire plus du tout utilisée par les armées de l'espace euro-atlantique. Même s'il y a quelques réminiscences, comme ce qui ressemble plus, ce serait la théorie du choc et de l'effroi, effectivement, mais c'est devenu très rare pour des raisons à la fois morales et puis aussi stratégiques. C'est que c'est pas intéressant d'un point de vue contre-insurrectionnel, dans le contexte de la guerre contre le terrorisme, de viser des civils. Enfin, c'est même absurde, ce serait contre-productif. Donc le terme terrorisme pose plein de problèmes. Il y a quand même une définition qui s'est imposée dans l'espace euro-atlantique. C'est en gros les actions de ce type, donc qui visent les civils, pour provoquer des sentiments de terreur, perpétrés par des groupes non étatiques. Ce qui introduit un cadrage énorme, mais voilà. Donc ça fait entrer dans cette catégorie la plupart des attentats perpétrés par Al-Qaïda, par l'organisation État islamique, etc. Donc le récit de la guerre contre le terrorisme nous dit qu'on va utiliser l'instrument guerrier pour lutter contre ce problème qu'on appelle terrorisme, donc en gros les attentats contre les civils. Et à mon avis, le problème de ce récit, c'est qu'il est basé sur une ambiguïté. Et l'ambiguïté est la suivante, c'est que il y a deux manières de concevoir la sécurité, deux manières qui me semblent logiques toutes les deux. C'est une manière nationale, le concept de sécurité nationale, donc on veut protéger les membres de la communauté nationale, et une manière qui est plus cosmopolitique, humaniste, et on veut protéger l'humanité, c'est la notion de sécurité humaine.
Pourquoi est-ce qu'on combat les terroristes ? Est-ce que c'est parce qu'ils nous ont attaqués, nous, démocratie occidentale, ou est-ce que c'est parce que ce sont des acteurs fondamentalement mauvais qui touchent, y compris et premièrement, les pays où ils sont implantés ? Parce qu'on peut rappeler que l'immense majorité des victimes de terrorisme le sont, évidemment, hors des pays occidentaux, le sont dans les pays où généralement les occidentaux finissent par intervenir, parce que c'est les pays où ces organisations terroristes-là, on a compris que c'était compliqué, mais voilà, sont implantés.
Tout à fait. Et donc, le problème dans le récit de la guerre contre le terrorisme, c'est que ces deux registres sont toujours mélangés. Et moi, je plaide, c'est un peu une des propositions pratiques que je fais malgré ma démarche critique, moi, je plaide pour une séparation de ces deux registres. Et je pense que c'est intéressant de séparer ces deux registres, parce que si le but, c'est de protéger les membres de la communauté nationale des attentats, la guerre est un instrument absurde. Et contre-productif. Et ça, on peut le montrer très facilement. Il y a énormément d'études statistiques qui ont été réalisées. Par exemple, un chercheur qui s'appelle Alex Braithwaite a calculé sur la base de 12 000 incidents terroristes dans le monde depuis les années 60 qu'un pays qui intervient militairement a 55 fois plus de risques de prendre un attentat en retour qu'un pays qui n'intervient pas. Alors, certes,
corrélation n'est pas causalité. Il faut que je mentionne que ce sont des études et des bases de données qui sont quand même assez discutées. D'une part, parce que faire des études statistiques avec des gros nombres sur des attaques terroristes, ça pose des questions. C'est pas évident que ce soit la meilleure manière d'aborder la chose. Bon, et par ailleurs, parce que corrélation n'est pas causalité, etc.
Mais ouais. Bon. Ce sont des bases de données problématiques, mais à mon avis, elles sont aussi problématiques que la définition du terrorisme qui domine dans l'espace euro-atlantique. En fait, elles reprennent la définition qui est produite dans l'espace euro-atlantique.
Ce que je veux dire, c'est que je voulais simplement mentionner que c'est discuté et que vous reprenez ces conclusions-là, ce qui est parfaitement logique. À l'intérieur de votre argumentation, mais que ce n'est pas non plus complètement consensuel parmi les chercheurs sur la question.
Bon, alors disons que si vos auditeurs veulent se faire une idée de ce débat, ils peuvent regarder une controverse qui s'est déroulée dans le Nouvel Observateur, et peut-être que vous pourrez mettre des liens.
On mettra tout à fait les liens, parce que c'est une controverse qui est intéressante, c'est une controverse qui est par ailleurs bonne, parce que c'est aussi un moyen de pénétrer dans ce débat-là de manière assez intéressante que de voir comment des chercheurs qui travaillent sur des objets, disons, proches, peuvent envisager la chose et c'est cette corrélation, cette causalité, donc de manière différente. Mmh. Voilà. Restons-en là.
Voilà.
Mais donc c'est très intéressant cette idée que bon si en tout cas et il y a autre chose qui est en tout cas plus objectif qui est que d'une certaine manière les interventions militaires occidentales à l'extérieur font plus de victimes dans l'absolu que l'action terroriste initiale elle-même, si on prend un point de vue parfaitement quantitatif, c'est vrai que l'action armée extérieure de ce que vous appelez les démocraties, enfin de ces armées libérales, voilà, fait a plus de conséquences à tous les niveaux imaginables que l'attaque originelle, disons.
Mmh. Ouais, mais pour reprendre le fil de mon raisonnement, donc mon analyse qui est partagée par d'autres spécialistes et discutée par d'autres collègues, c'est qu'effectivement, ces interventions militaires sont contre-productives si le but c'est de prévenir des attentats contre des membres de la communauté nationale. C'est une idée qu'on retrouve aussi dans le champ militaire. Le président des États-Unis reçoit chaque année sur son bureau un document qui s'appelle le National Intelligence Estimate, qui est une synthèse des services de renseignement états-uniens. En 2005, ce National Intelligence Estimate expliquait que les interventions états-uniennes en Afghanistan et en Irak avaient provoqué des vocations terroriste. Donc c'est pas une idée seulement produite par le champ académique.
Non, mais c'est vrai que c'est par ailleurs, voilà. c'est les apories des interventions militaires, qu'il y a toujours le risque, et c'est ce qu'on a vu particulièrement en Irak, il y a toujours le risque de déstabiliser une société, de provoquer la misère, du chaos, etc. Ce dont on sait, c'est pas controversé du tout, de dire que ça provoque généralement des ferments terroristes. Et l'exemple de l'État islamique est probablement le plus parlant de ce point de vue-là, au sens où il a grandi sur le chaos de l'Irak post-2003. Quoi.
Voilà. Et alors après, il y a un deuxième raisonnement, qui est le raisonnement de la sécurité humaine, qui consiste à dire on intervient au Mali, on intervient en Irak ou en Syrie ou en Afghanistan, non pas pour prévenir des attentats chez nous, mais pour venir en aide aux populations opprimées par ces terroristes. Alors, ce raisonnement, je le trouve logique. Je n'ai pas d'objection logique par rapport à ce raisonnement.
Donc l'argument humanitaire.
C'est l'argument humanitaire. Moi, je pense que cet argument est logique, fondamentalement. En fait, c'est le raisonnement du moindre mal. Raisonnement du moindre mal qui consiste à dire, bon, certes, quand on intervient militairement dans un pays, on fait un peu de mal, au minimum un peu, parce qu'on ne fait jamais la guerre sans tuer des personnes innocentes. Mais on estime que ce mal est un moindre mal par rapport au mal qu'on permet d'arrêter, des massacres, voire un génocide. Donc moi, je trouve ce raisonnement logique, mais je propose de le séparer de l'autre raisonnement pour pouvoir avoir une réflexion stratégique authentique, parce que pour qu'il y ait réflexion stratégique, il faut se mettre d'accord sur les objectifs. Et je souhaite mettre en garde par rapport à des biais cognitifs qui sont souvent à l'œuvre dans ce raisonnement du moindre mal. Les deux biais cognitifs principaux sont l'hyperbolisation du mal qu'on veut éviter, c'est-à-dire se représenter le mal qu'on veut arrêter comme plus grand qu'il n'est. Et l'autre biais cognitif, c'est d'euphémiser sa propre violence et donc de ne pas se rendre compte que le mal qu'on fait est parfois plus grand que le mal qu'on veut arrêter.
Bien sûr, et on y reviendra parce que c'est très important dans ce que vous identifiez, c'est un des piliers de la justification, disons, libérale, de l'usage de la violence, c'est de dire qu'on évite un moindre mal, il y en a d'autres. Mais simplement pour rester là-dessus, on peut dire que c'est ce que vous relevez. Ce qui est intéressant, c'est que c'est moins confortable d'un point de vue argumentaire, ce deuxième pilier, l'idée qu'on va faire la guerre pour sauver ces peuples, etc. Notamment pour une raison, c'est que vous remarquez quelque part qu'en fait, toute guerre est toujours présentée par tout le monde, par chacun des camps, comme défensive. C'est très difficile d'assumer le fait qu'on va provoquer un conflit. Et donc, en ce sens-là, le premier pilier, c'est-à-dire l'idée qu'on défend notre communauté nationale qui est attaquée, est beaucoup plus facile pour justifier une guerre que de dire simplement on va aider des gens chez eux.
Oui. Ouais. Et alors, cette idée selon laquelle toutes les guerres sont défensives est une idée assez fascinante, mais profondément vraie. Je parle sous votre contrôle, vous êtes historien, mais il me semble que l'exemple le plus fascinant, c'est la Première Guerre mondiale.
Tout à fait.
Qui était une guerre défensive de tous les côtés.
Une guerre défensive avec des réactions qui, elles, deviennent vraies, donc qui peuvent provoquer des contre-réactions. C'est le principe de la montée progressive de la violence, quoi. C'est l'idée que on monte d'un cran dans la violence parce que face à une attaque perçue, en tout cas, ennemie, quoi.
Tout à fait. Donc, une idée qui a été un petit peu travaillée par Clausewitz, et après Clausewitz, par un anthropologue qui s'appelle René Girard, et qui a une formule intéressante à ce propos. Donc, il nous explique que toutes les guerres sont toujours perçues comme défensives par les belligérants. Et Girard nous dit aussi qu'il ne sert à rien de condamner moralement la violence, parce que c'est bien parce que tout un chacun est contre la violence d'un point de vue moral, qu'il est prêt à faire la guerre pour arrêter la violence de l'autre. Voilà, c'est une autre manière de le dire.
Bien sûr. Mais alors, on peut juste faire une parenthèse pour dire que ce que vous remarquez, enfin en tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous vous identifiez pas non plus dans le livre une espèce de dessin machiavélique de la part d'appareils d'État pour provoquer la guerre, ou, enfin je sais pas, c'est le truc qu'on dit parfois sur la Première Guerre mondiale, c'est les marchands de canons qui font la guerre, etc. Vous n'y voyez pas une sorte de dessin machiavélique d'un appareil d'État pour absolument emmener vers un conflit. Il peut y avoir des motifs stratégiques plus ou moins sordides. On a beaucoup parlé en 2003 de pétrole pour aller en Irak, etc. Mais ce que vous identifiez, c'est que c'est un truc beaucoup plus diffus, beaucoup plus propre à l'idéologie politique qui sous-tend, enfin qui tient toutes les démocraties libérales, que c'est pas, voilà, c'est pas de la manipulation de la part, c'est pas de la manipulation de la propagande, c'est un truc qui est inhérent à la fois aux idéaux et aux manières de fonctionner des démocraties libérales.
Ouais, alors, ça renvoie à un phénomène plus général qui dépasse largement la question de la guerre, ça renvoie à la question de la fabrique de l'action publique. La guerre est une action publique parmi d'autres. Il y a rarement de grands desseins dans une action publique. En fait, il y a toujours des intérêts divergents. Si on prend l'exemple de la guerre d'Irak de 2003, une action publique parmi d'autres, il y avait certainement des intérêts en termes de pétrole. C'est vrai que la firme Halliburton, qui a obtenu pas mal de contrats, était proche du gouvernement états-unien à l'époque. Même chose pour la firme Bechtel, une firme d'ingénierie qui a eu plein de contrats pour la reconstruction de l'Irak. On peut aussi imaginer que le président Bush avait son propre agenda en termes de peut-être de prestige ou des signaux à envoyer à son opinion publique après le 11 septembre, deux ans après le 11 septembre. Bref, une action publique met toujours en branle différents intérêts. Et ces différents intérêts peuvent converger vers un récit de justification qui, en l'occurrence, c'est le récit de la guerre contre le terrorisme, et qui est, à mon avis, un récit qui convient de prendre au sérieux. Il y a une formule qu'on utilise parfois en référence à un historien que vous connaissez mieux que moi, Paul Venn. L'expression de Paul Venn, c'est « les Grecs croyaient-ils en leur mythe ?» En sciences politiques, on utilise cette formule pour parler des mythes d'action publique et dire que les mythes d'action publique, comme le récit de la guerre contre le terrorisme, et certes, un récit qui n'engage pas des croyances du même type que la croyance dans la gravitation ou des croyances de ce type, basées sur des convictions scientifiques, mais néanmoins une forme d'adhésion à ces idées. Alors pourquoi il y a une adhésion à ces idées ?
C'est-à-dire, c'est la différence entre une analyse d'une action publique, une analyse politique et une théorie du complot. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui se réunissent dans un sous-sol pour manipuler la société mondiale, etc. C'est simplement, il y a des intérêts qui convergent, qui parfois l'emportent, parfois l'emportent pas. D'ailleurs, on fait jamais l'histoire des groupes d'intérêts qui ne réussissent pas. Mm-hmm. C'est une autre question. Et donc, il faut pas le penser comme une machination sordide qui réussirait. Il y a peut-être un peu de ça dans l'intention de certains acteurs. Mais en tout cas, c'est pas ça qui fait que ça emporte le morceau. Ce qui emporte le morceau, c'est le fait que ça s'inscrit dans une manière de penser plus générale, et c'est en cohérence, disons, avec une manière de fonctionner qu'ont les sociétés libérales, dont il n'y a pas un acteur qui l'influence décisivement, quoi.
Non, les sciences sociales ne voient pas de complot, enfin, elles n'en trouvent pas. effectivement, donc, des intérêts divergents qui sont amenés à travailler ensemble et qui se racontent une histoire. Et donc, c'est cette histoire que je prends au sérieux dans ce livre, parce que C'est une histoire, on va peut-être y revenir, qui ne se joue pas seulement au niveau des discours de justification des guerres, mais qu'on retrouve dans les pratiques guerrières, les routines, les technologies militaires même qui sont utilisées.
Mais alors, du coup, commençons peut-être par nous attarder là-dessus, sur cette justification interne, donc ces mécanismes de justification de la violence libérale, tels que vous les identifiez. Après, on parlera des biais, enfin, en tout cas de la manière dont elle fonctionne, qui est plus discutable. Mais en tout cas, la justification explicite de cette violence libérale, vous l'analysez autour de trois grands pôles que je vais vous laisser déployer, qui sont la lycéité, la maîtrise et la proportionnalité. Donc expliquez-nous ça, c'est-à-dire comment est-ce que les sociétés ou les armées libérales se racontent l'histoire de leur de la justification de leur propre violence.
Alors les trois principes de la violence libérale que j'identifie dans ce livre sont le principe de non-intentionnalité, l'idée selon laquelle une violence est plus légitime si elle est non-intentionnelle ou moins intentionnelle, le principe de maîtrise, l'idée selon laquelle on n'est pas l'auteur d'une violence totale, contrairement aux terroristes qui essayent de faire le plus possible de dégâts avec leurs souvent faibles moyens, et le principe de licéité. Il faut bien voir que les deux premiers principes, en fait, sont en gros les deux principes du droit des conflits armés, donc on ne vise pas les civils et la violence est proportionnelle à l'effet militaire recherché. Du coup, le troisième principe est finalement un corollaire des deux premiers, quoi.
C'est-à-dire, puisqu'on respecte ces deux choses-là, la violence est licite, la violence est autorisée, puisqu'on a respecté les deux piliers essentiels, quoi.
Voilà. Mais alors, une fois qu'on a dit cela, il faut aussi admettre que y a beaucoup d'interprétations dans cette histoire. Par exemple, je pense que depuis notre position française, la politique d'interrogatoire renforcé des États-Unis nous apparaît comme illégale.
C'est une euphémisation en soi.
Nous ne sommes pas les seuls à le penser. Je crois que toutes les institutions censées dire le droit en dehors de l'administration états-unienne de l'époque disent la même chose. Cependant, ça m'a fasciné au cours de mon enquête, c'est que j'ai constaté que cette politique d'interrogatoire renforcé ou de torture n'a pas été mise en œuvre comme la torture à l'époque de la guerre d'indépendance algérienne, à savoir à l'ombre de l'état de droit. Hein. En Algérie, le Conseil d'État s'est jamais prononcé ou a jamais produit des textes pour encadrer ou légitimer la torture.
Ça ne se fait pas dans une cave d'Alger où personne ne dira jamais ce qui s'est passé, ou d'ailleurs, 50 ans après, on est obligé de, au goutte à goutte, enfin, 60 ans bientôt après, on est obligé au goutte à goutte de révéler ce qui s'est passé, parce que justement, il n'y a jamais eu de cadre.
Il n'y a jamais eu de cadre, ce que montre Raphaël Branche dans ses travaux. Il n'y avait pas de cadre, il y a deux petits textes très vagues qui cadrent un petit peu cela, mais en gros, la torture en Algérie, c'est produite à partir d'ordres oraux. Voilà. Et finalement, c'est la manière avec laquelle la plupart des pays torturent, ils ne produisent pas de droit. L'administration Bush, en 2002, a au contraire produit tout un espace juridique, tout un ensemble de textes via son Office of Legal Counsel du ministère de la Justice pour encadrer et expliquer en quoi ces pratiques sont légales. Et l'argument général qui parcourt tous ces textes, le plus important, c'est un mémorandum du 1er août 2002 du Office of Legal Counsel, c'est l'idée qu'il y a une différence entre un interrogatoire renforcé et la torture. Donc la torture, c'est illégal, voilà, c'est interdit par de trop nombreuses conventions internationales, mais les interrogatoires renforcés sont ou seraient légaux. Et la différence entre une séance de torture et une séance d'interrogatoire est le degré de violence employé. Et dans ce mémo du 1er août 2002, la limite entre ces deux pratiques, interrogatoire renforcé et torture, était la défaillance d'organes, voire la mort de l'individu. Autrement dit, le seuil était placé extrêmement haut, et même de manière absurde, parce qu'aucun tortionnaire a intérêt à faire mourir la personne qu'il ou elle torture. Donc, il y avait ce principe de maîtrise qui était très important dans le système de justification interne de l'administration Bush. Pour l'inscrire dans un référentiel libéral, nous ne sommes pas des tortionnaires non libéraux, nous sommes des libéraux qui maîtrisons la violence contre les personnes que nous interrogeons. Donc ça faisait sens pour eux, même si de l'extérieur, d'un point de vue critique qui est le nôtre, ça nous paraît absurde. Ouais.
Mais c'est très intéressant parce que ce triple principe, donc licéité, intentionnalité, maîtrise, c'est très intéressant parce que, en fait, si on interrogeait, si on en parlait à des décideurs politiques et militaires surtout, ce serait, je pense, très accepté, enfin, ce serait quasiment trivial de, bah oui, on essaie de faire un truc légal, on essaie de pas faire n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que là, du coup, ça pose la question aussi de la critique, c'est-à-dire de la posture critique que vous avez dans ce livre, alors qui se voit beaucoup quand on le lit, je vais le dire, ça apparaît clairement dans les pages, peut-être plus que la discussion qu'on est en train d'avoir en ce moment. C'est-à-dire, la question, c'est là que ça peut être un peu compliqué à comprendre. Ça vous apparaît une mauvaise chose, ces trois principes? C'est-à-dire, voilà, c'est cette analyse et cette déconstruction, elle est parfaitement consensuelle, mais donc en quoi est-ce que ce sont des principes qui, en quelque sorte, poseraient question pour vous, cette idée que la violence libérale, elle essaye d'être un peu cadrée, quoi?
Ça renvoie à votre introduction qui était excellente sur les approches critiques. Il ne s'agit pas d'être critique au sens normatif du terme. Il s'agit d'être critique au sens de faire un pas de côté et donc apporter un éclairage différent. Donc la critique que je formule de cette violence, c'est une critique des procédés d'euphémisation qu'elle embarque. C'est que moi, je constate que, et je m'inclus moi-même dans cette catégorie, quand on voit une violence non intentionnelle, maîtrisée et légale, on a tendance à la voir moins violente que une violence égale en volume, mais qui serait intentionnelle, non maîtrisée et illégale. Il y a un exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple de ce qu'on pourrait appeler la semaine sanglante après le 14 juillet 2016, donc attentat de Nice, 86 morts à Nice. Donc là, on a une violence qui est typiquement terroriste, au sens où elle est illégale, non maîtrisée. Je pense qu'à la voiture Bélier, cette personne voulait faire un maximum de victimes. Et puis l'intentionnalité de tuer était évidente. Et quelques jours après, il y a le bombardement de Tokar, donc le village de Tokar dans le nord de la Syrie, avec 98 victimes civiles identifiées, a priori des avions états-uniens. Et on n'a pas de raison de penser que les civils étaient visés. C'est-à-dire qu'il s'agissait probablement de dégâts collatéraux. Mais on est dans des volumes de violence très semblables, hein, 86, 98 victimes innocentes. Voilà. Or, le bombardement de Tokar a été commenté, et je crois que la plupart d'entre nous, en tout cas je m'inclus dans ce...
vous pouvez m'inclure aussi, tout à fait.
Voilà, je pense que la plupart d'entre nous avons vécu avec horreur les attentats de Nice, avons entendu parler de l'attentat de Tokar et avons pas du tout les mêmes réactions par rapport à ces...
De l'attaque de Tokar.
Oui, pardon, de l'attaque...
C'est la plus intéressante. Mais oui, avons pas, notamment en termes de personnification des victimes civiles, etc.
Voilà. Juste pour finir, mon argument, c'est que c'est probablement pas lié au fait que, en tant que Français, nous sommes plus proches des victimes de Nice que des victimes syriennes. Je pense qu'il y a bien sûr cet élément, hein, ça c'est incontestable. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de notre rapport à la violence, comment la violence est perpétrée, et les violences libérales, c'est-à-dire celles qui respectent ces trois principes, nous apparaissent comme moins violentes, même si parfois, objectivement, elles font autant de morts que le terrorisme.
Ouais, et je vais dire que c'est un élément tout à fait central de votre ouvrage, et vraiment, c'est l'idée de faire un pas de côté et de, justement, de mettre un peu en perspective ces actions militaires en remarquant que, je vous cite, en remarquant que pour une victime, en fait, la justification d'une action guerrière n'a pas d'importance en soi, et je vous cite, « Concrètement, les familles des dégâts collatéraux, entre guillemets, ne sont pas moins endeuillées que celles des attentats. » Et c'est très vrai, c'est l'idée que... Alors ça ne veut pas dire pour autant, et on a bien compris qu'il ne faut pas justifier et il ne faut pas réfléchir sur sa violence, sur pourquoi on l'a fait, etc. Il peut y avoir des très bonnes raisons, mais simplement, il faut voir qu'une victime collatérale est tout à fait une victime civile aussi, et même s'il peut y avoir une raison surplombante plus large, ça implique quand même de regarder tout à fait en face la victime dans le dégât et littéralement dans la chair, en l'occurrence. Thank you.
Pilgrim has suffered massive and irreparable damage.
You never know what has happened to him.
Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live.
Where?
Father?
What happened?
I need help.
What is democracy? What is democracy?
Got something to do with young men killing each other, aren't
you? When it comes to my turn, will you want me to go?
For democracy, any man would give his only begotten son.
Alors ensuite, j'aimerais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire, il y a des mécanismes, il y a la justification, mais ensuite, au-delà de la justification, ce qu'on peut en tirer, c'est voir la manière dont ça se passe pour les puissances occidentales qui la mettent en œuvre, et là c'est vraiment là que vous entrez dans l'analyse plus profondément, et notamment beaucoup plus précisément avec ces deux révélateurs que sont les bombardements et la torture, et où vous essayez de voir les mécanismes qui sont à l'œuvre vraiment pour pouvoir justement euphémiser cette violence. Alors il y en a trois principaux, disons, qui sont la réification, une racialisation, alors on va revenir dessus, parce que je l'ai dit comme ça, c'est beaucoup plus subtil évidemment dans l'ouvrage, et l'idée de la justification par le moindre mal. Mais commençons peut-être par cette idée de réification. C'est-à-dire, alors pas exactement de réification, ça vient du latin res, donc c'est pas exactement de considérer les victimes comme des choses, on n'en est pas là, mais c'est de considérer les victimes non plus comme des ennemis, absolument, et notamment pas les victimes civiles, évidemment, mais en tout cas comme des dégâts collatéraux, comme des choses pas insignifiants, mais en tout cas moins signifiants qu'une autre victime ailleurs.
Mmh. Ouais, donc dans l'idée de réification, il y a l'idée... de donner une valeur nulle aux vies humaines. C'est un petit peu ça l'idée. Donc il y a toute une littérature sur le rôle de la bureaucratie dans les violences de masse et sur ces...
Notamment beaucoup inspiré de la Shoah, du cas Eichmann.
Tout à fait. Et de l'analyse que fait Hannah Arendt du cas Eichmann. Analyse fausse en ce qui concerne Eichmann lui-même. Il était profondément antisémite. Mais le paradigme de Arendt est néanmoins intéressant pour comprendre comment la division du travail, l'inscription... dans une bureaucratie peut conduire des personnes qui n'ont pas d'animosité par rapport à d'autres personnes à exécuter des ordres, etc. Donc c'est ça ce qu'on appelle la réification. Et un des arguments de mon livre, c'est qu'il y a des logiques de ce type dans la guerre contre le terrorisme, c'est évident. D'ailleurs, ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas. La bureaucratie, la légalité est partout. Voilà. Donc aussi dans la guerre et aussi dans les armées, bien évidemment.
La bureaucratie, essayons de lui donner quelque chose d'un peu concret, c'est par exemple, pour le cas de la torture que vous prenez, il n'y a pas un bourreau qui torture un suspect à Guantanamo. C'est très séquencé, c'est une division du travail, il y a plein d'interrogateurs différents, ce qui fait qu'en quelque sorte, par l'inscription de l'action dans un cadre bureaucratique, disons, en fait, ça permet que personne ne voit vraiment l'ensemble du tableau et l'ensemble de la violence.
Voilà. Une division du travail extrême. Un détenu pouvait être interrogé par un officier de renseignement qui utilisait le répertoire, qui était autorisé à utiliser le répertoire des techniques d'interrogatoire jusqu'à, par exemple, la technique numéro 15. Il y en avait 35 dans un premier temps. Et puis, si le détenu ne parlait pas, on le donnait à un autre officier d'enseignement habilité à torturer un petit peu plus, à interroger un petit peu plus fort. Voilà. Et donc, cette division du travail faisait que les interrogateurs, slash tortionnaires, selon les perspectives, n'avaient pas de vision d'ensemble de la violence subie par le détenu, et donc pouvaient se représenter leur violence comme une quasi-non-violence. Et c'est ce qui ressort de leurs témoignages. Et sociologiquement, on peut les comprendre. C'est-à-dire qu'en général, eux-mêmes ne produisaient pas une violence inouïe. Simplement, quand ils étaient nombreux à le faire, le détenu subissait une violence très forte.
Et alors, l'autre exemple, c'est toujours intéressant, puisque vous fonctionnez par ces deux pôles, reprenons l'autre pôle, c'est dire, par exemple, pour les frappes d'aviateurs, c'est-à-dire en fait toutes les tâches sont hyper encadrées, et en fait un aviateur remplit une liste de tâches tout autant qu'il largue une bombe, c'est-à-dire il a une infinité de trucs à faire très concrets, de micro-tâches.
Les procédures, il respecte des règles d'engagement qui sont aujourd'hui écrites, qui peuvent être des textes assez longs parfois, et donc effectivement il y a tout un travail... de type bureaucratique, assez classique, respect des règles, qui produit effectivement de la réification, mais, et c'est l'argument central de mon livre, pas seulement. C'est que moi je montre dans le livre qu'il n'y a pas une déshumanisation totale des victimes dans le paradigme et les pratiques de la violence libérale. Il y a aussi une reconnaissance, au moins partielle, à minima, de l'humanité des victimes.
Mais ça, c'est très intéressant, c'est quelque chose auquel vous avez fait référence rapidement tout à l'heure, c'est l'idée que les militaires, ils réfléchissent quand même beaucoup à ce genre de choses, probablement plus que beaucoup d'autres catégories de la population, c'est-à-dire à l'idée de ce qu'ils sont en train de faire. Alors il y a des mécanismes, il y a des cultures organisationnelles pour mettre ça à distance, ce qui est aussi pour de bonnes raisons, parce qu'on n'a pas envie que tout le monde soit pris dans des affres existentielles à chaque moment de leur action. Mais que, enfin, quand même, il y a quand même cette idée que, en fait, les militaires, mine de rien, sont forcés de regarder ça d'une certaine manière, et probablement plus forcés que d'autres opérateurs de la violence.
Oui, on peut prendre un exemple très simple. L'aviateur qui bombarde et qui est pris dans toutes ses procédures et dans ses règles, au moment où il bombarde, ne se pose pas de questions métaphysiques ou morales. Il est dans la procédure, et d'autant plus si c'est un aviateur plutôt qu'un opérateur de drone, parce qu'il y a aussi des contraintes temporelles liées au bombardement. Voilà. Mais bon, quand il a terminé sa mission, il a un débriefing avec l'officier de commandement. Lors de ce débriefing, il a un peu plus de temps, et puis il a des images un peu plus précises également. Donc le cadre ou le cadrage réifiant du moment de l'action guerrière n'est plus là, et donc on peut voir le visage au sens quasi lévinassien. Donc là, je fais référence au philosophe Emmanuel Lévinas, le visage des victimes. Et donc là, on n'est plus dans la déshumanisation totale. Et encore moins quand cet aviateur ou cette aviatrice rentre chez lui ou chez elle. Sur les réseaux sociaux, on peut voir là des contre-cadrages radicalement différents produits par les personnes au sol, les familles des victimes. Et donc là, cette personne peut aussi être matériellement confrontée à une toute autre vision de la guerre.
C'est particulièrement vrai, soit dit en passant, je le répète, mais je vais le répéter à chaque fois, pour les opérateurs de drones qui sont confrontés à l'observation sur du très long terme des cibles qui vont frapper s'ils les frappent. Et du coup, loin de la distance, on voit souvent, il y a au contraire une extrême proximité entre les opérateurs de drones et l'action qu'ils vont faire, parce que justement, ils peuvent pas... C'est pas... un passage en avion de 4 secondes et après c'est fini. Il y a vraiment la permanence.
Voilà, c'est radicalement différent de ce que pouvait être la guerre aérienne il y a plusieurs décennies. Howard Zinn, qui est devenu après la guerre un militant anti-impérialiste et un critique des bombardements aériens.
Et un très grand historien.
Notamment l'histoire populaire des États-Unis. Mais donc il a été pilote, lui, dans les forces aériennes de l'US Army pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a bombardé notamment la ville de Royan. Et donc, après la guerre, Howard Dean a expliqué comment, certes, il savait que ces bombes allaient tuer des civils, mais il n'en avait pas une représentation concrète. Enfin, il larguait des bombes au-dessus, parfois, d'une mer de nuages. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est très différent. Enfin, rien que en raison des nouvelles technologies, il n'y a plus une déshumanisation aussi forte.
Mais alors, c'est là que c'est intéressant, c'est que du coup, vous identifiez qu'il y a un deuxième registre d'adhésion qui est nécessaire. Alors là, c'était de l'adhésion, enfin, de l'obéissance de type bureaucratique qu'on vient de détailler, mais un deuxième type qui est nécessaire, c'est donc ce que vous appelez l'obéissance coopérative, c'est-à-dire c'est l'idée que ça rentre dans le cadre du tableau qu'on peint depuis tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'idée que les pilotes pensent accomplir quelque chose pour défendre, si ce n'est défendre les pays, parce qu'on a vu, mais en tout cas défendre des valeurs, quoi.
Ouais. Alors le concept d'obéissance coopérative appelle peut-être quelques commentaires. En fait, c'est l'idée selon laquelle une personne qui obéit à des ordres ne le fait pas forcément seulement parce qu'on lui donne un ordre, mais aussi parce qu'elle croit en la légitimité de l'autorité qui lui donne l'ordre. Donc dans les expériences de Milgram que vos auditeurs connaissent peut-être, Le fait que la personne qui donnait des ordres était, je crois, un enseignant, donc une personne qui, a priori, ne veut pas de mal.
Donc l'expérience de Milgram, on va rappeler très rapidement, et c'est très long en fait pour bien l'expliquer, mais c'est l'idée que c'était des expériences faites en laboratoire aux États-Unis sur la capacité d'un individu lambda, disons, à infliger de la souffrance à quelqu'un d'autre parce qu'on lui en donnait l'ordre.
Voilà, voilà
globalement.
Et donc, c'est des expériences de psychologie sociale assez impressionnantes parce qu'on s'est rendu compte que une majorité de personnes étaient prêtes à donner des décharges électriques et donc à faire souffrir des personnes contre lesquelles elles n'avaient pas d'animosité particulière si on leur en donnait l'ordre, mais surtout si l'autorité qui leur donnait un ordre était considérée comme légitime. Donc, pour en revenir au cas qui nous intéresse, l'autorité légitime, là, c'est l'autorité venant d'un pays libéral et démocratique, si on prend l'exemple des aviateurs et de la France. Et donc, se pose une question, à mon avis, intéressante, c'est quand un acteur, ici un aviateur ou une aviatrice, croit en la légitimité du donneur d'ordre, un donneur d'ordre libéral, une démocratie libérale, un président de la République, par exemple, est-ce que cela produit davantage d'obéissance aveugle ? Parce qu'on a deux bonnes raisons d'obéir, à savoir les routines bureaucratiques et la croyance aveugle dans la légitimité du donneur d'ordre. Ou est-ce que ça produit au contraire de la réflexivité par rapport à l'ordre, parce que le référentiel libéral inviterait les sujets à faire preuve de réflexivité, et donc, comme le veut l'éthique et puis également le code militaire, de ne pas obéir à un ordre illégal. Donc moi, mon argument, c'est que en fait, les deux cas de figure sont possibles. Si on pense à la guerre d'indépendance algérienne, on a observé les deux cas. Des personnes qui ont refusé de torturer parce qu'elles se faisaient une idée de la France et de la démocratie et de la France, pays des droits de l'homme, qui les conduisait à refuser ce type d'ordre. Et puis d'autres, au contraire, qui, parce qu'ils croyaient si fortement en la France, se sont dit « ben oui, je vais obéir aux ordres donnés par cette autorité légitime ». Donc je pense que les deux cas de figure sont possibles. Et dans la guerre contre le terrorisme, moi j'ai plutôt tendance à penser que la réflexivité joue peu, non pas que les exécutants de cette guerre ne soient pas réflexifs, c'est pas mon propos, mais en fait on leur donne pas d'ordres illégaux, enfin, on n'a aucun intérêt à leur en donner, encore une fois, pour faire la guerre au terrorisme, on n'a aucun intérêt à aller balancer une bombe au milieu d'un
village. Ailleurs, tout ça est assez cadré pour des très bonnes raisons.
Voilà, pour des raisons à la fois morales, mais aussi stratégiques. C'est la guerre contre-insurrectionnelle, on n'a aucun intérêt à viser les civils, on n'a aucun intérêt à provoquer une violence disproportionnée, au contraire, on a tout à fait intérêt à maîtriser la violence. Du coup, je pense qu'il y a peu de bonnes raisons de penser qu'on donnerait des ordres illégaux aux soldats français ou autres.
Alors, puisqu'il faut maintenant avancer, donc on a compris ce premier pôle, ce premier phénomène, qui est un phénomène qui, donc de manière différente, selon des processus très variables, amène en tout cas à ne pas considérer les victimes en tant que telles, à part entière, ne pas les regarder totalement en face. Et un deuxième phénomène qui est intéressant dans ce processus de féminisation de la violence, qui dérive un peu de cette réification, ce que vous appelez une racialisation de la violence. Alors, je précisais quand même que c'est pas ce qu'on pourrait penser que c'est, c'est-à-dire vous attachez. Il s'agit pas de dire que la guerre contre terroriste aujourd'hui est raciste et violente de la même manière que les guerres, par exemple, les bombardements dans les années 20 en Syrie, enfin que la plupart des guerres coloniales l'ont été. C'est pas du tout votre propos. Votre propos, c'est simplement de saisir plutôt, je sais pas si c'est des rémanences, mais en tout cas des correspondances, des similarités éventuelles dans la manière de concevoir cet ennemi, en tout cas cet autre, qui d'ailleurs souvent vient des mêmes régions, c'est pas totalement un hasard, c'est parce que on en parlait à un moment avec Adam Bachko, c'est-à-dire l'idée que par exemple les Américains, en arrivant en Afghanistan, ont repris des colonial papers britanniques qui dataient du tournant du XXe siècle, quoi, parce que c'était le truc qu'ils avaient, la documentation qu'ils avaient, et que du coup les clichés se perpétuent en quelque sorte. Mais donc c'est l'idée que Voilà, il y a des processus qui rappellent dans une certaine mesure l'époque coloniale, et qui du coup ne peuvent pas ne pas interroger puisque ça concerne globalement les mêmes espaces.
Oui. Alors, disons que je discute une littérature que je trouve intéressante, qui est la littérature postcoloniale sur la guerre contre le terrorisme, qui est une littérature qui est très attachée à montrer les continuités entre les guerres coloniales et la guerre contre le terrorisme. Alors, c'est une littérature intéressante, mais à mon avis, qu'il faut interroger. Le gros problème de cette littérature, c'est qu'elle a tendance parfois à sauter de l'analogie à l'idée de continuité. Or, je crois que d'un point de vue logique, on peut facilement se mettre d'accord sur le fait que, certes, il existe continuités dans le temps, mais il faut essayer de comprendre comment elles se produisent, ces continuités. Et là, les sciences sociales nous disent que les continuités ne se produisent que s'il y a reproduction, soit des représentations, soit des pratiques.
C'est-à-dire que la perception d'un militaire, par exemple britannique, si jamais il est en Irak, par exemple au sein des opérations contre l'État islamique, c'est pas la même chose que les administrateurs coloniaux en Irak dans les années 20. Ces pays ne voient pas la chose de la même manière.
En théorie, ça peut être la même chose, mais c'est assez peu probable. Ouais. Parce que pour que le passé voyage dans le temps, ce que Max Weber appelait les interactions diachroniques, il faut de la répétition. Mais quand il y a de la répétition, il y a toujours de la traduction. Donc c'est en fait très peu probable. Et donc si on applique cette grille de lecture à la question du racisme, moi je crois que les théoriciens libéraux des relations internationales ont raison de souligner qu'il y a quand même une rupture historique avec la décolonisation, c'est savoir que les formes les plus biologisantes, les plus grossières du racisme n'ont plus leur place dans l'espace public. Donc là, il y a une rupture qui génère forcément des traductions, au minimum des traductions. Mais en même temps, moi, ce que j'explique dans l'ouvrage, c'est que à l'époque coloniale, il y avait aussi un racisme, ou plutôt une vision différentialiste et hiérarchisante du monde, qui ne se basait pas sur des critères biologiques, mais plutôt sur des critères culturels. C'est ce que Edward Said a appelé l'orientalisme. Et ce que je montre dans le livre, c'est que ce racisme-là, que certains appellent plutôt un racisme culturel, qui était fort aussi à l'époque coloniale et qui constitue un ressort puissant de légitimation de la violence contre les colonisés, ce racisme-là, ou cette vision différentialiste et hiérarchisante du monde, a mieux traversé la frontière de la décolonisation que le racisme biologique.
Alors, disons, là on est sur des choses un peu abstraites, mais c'est normal, parce qu'on essaie de conceptualiser la chose, mais disons, c'est des clichés culturels qui reviennent. Par exemple, il y a l'idée très intéressante qui existait déjà totalement à l'époque coloniale, qu'on va sauver les femmes indigènes des hommes indigènes. C'est-à-dire, voilà. C'est l'idée que les femmes sont opprimées dans ces sociétés archaïques, évidemment, avec tous les guillemets qu'il faut, et que il faut, à l'époque, le colonisateur doit venir les sauver. Et ce que vous relevez, c'est que ça n'est évidemment pas la même chose, on ne formulerait évidemment pas les choses dans ces termes-là. Cela dit, il y a des choses qui sont assez frappantes, par exemple, quand on envahit l'Afghanistan, un des premiers trucs, c'est on va dévoiler les femmes, on va leur enlever leur burqa, qui est un symbole de l'oppression des femmes afghanes par les hommes afghans.
Oui, alors au niveau des discours de justification, moi je dirais qu'il y a plutôt un concentré d'orientalisme. Là, je suis plutôt sur la thèse continuiste hein, pour les discours de justification. Bah, ce trope, ce cliché des hommes blancs qui vont sauver les femmes de couleur opprimées par les hommes de couleur, hein, donc, un trope orientaliste analysé par Gayatri Spivak, on le retrouve un peu partout dans la guerre contre le terrorisme aujourd'hui.
Mais ce qui ne veut pas dire, il faut préciser la chose, que les femmes ne sont pas opprimées dans ces pays-là et que ce ne sont pas des sociétés extrêmement problématiques en termes de place de la femme, en tout cas par rapport à l'idéologie qu'on a. Le problème, c'est que la femme reste toujours objet, elle se fait libérer par un homme d'un autre homme, mais la femme n'accède jamais au statut d'individu politique. Quoi.
Voilà, c'est ce qu'explique Gayatri Spivak précisément, c'est que tant que les femmes ne seront pas constituées en sujet, et tant qu'elles resteront des objets du discours, il n'y aura pas d'émancipation. Donc moi, je pense qu'au niveau de la rhétorique, là, il y a une continuité, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une continuité au niveau des pratiques. Au niveau des pratiques guerrières, je pense qu'il y a beaucoup de traductions, mais il y a aussi des continuités. On peut peut-être parler du livre de Raphaël Pataille, si vous le souhaitez. C'est un exemple de continuité. Donc Raphaël Pataille, c'est un orientaliste savant états-unien qui a écrit un livre qui s'intitule « L'esprit arabe ». Ce livre est un concentré de clichés orientalistes sur les Arabes. Donc l'ensemble des mondes arabophones sont subsumés dans cette catégorie, l'arabe ou les Arabes. Et par ailleurs, il donne une vision de ce monde arabe, puisqu'il parle de ce monde au singulier, comme, de manière typiquement orientaliste, comme n'évoluant pas historiquement, comme figé, etc.
Et avec des stéréotypes sur aussi, et c'est pour ça qu'on va voir que c'est important, sur la manière dont les Arabes pensent, sur leurs tabous, etc., de manière complètement unifiée. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte, on pénètre dans la tête de tous les Arabes d'un coup, quoi.
Exactement. Et alors, il se trouve que ce livre a été utilisé par l'armée états-unienne avant la guerre en Irak pour la formation des recrues qui partaient en Irak et aussi pour la formation des interrogateurs, notamment pour la prison d'Abu Ghraib. Et ces séances d'instruction donc, qui s'appuyaient sur certains chapitres du livre, lui-même, il est pour rien, il est mort avant. Mais donc, on donnait lieu à des pratiques concrètes. Par exemple, je pense que vos auditeurs et auditrices ont en tête certaines des photos des mauvais traitements subis par les prisonniers d'Abu Ghraib. Donc, la plupart de ces photos, qui sont dans, on en a un nombre incroyable, hein, le magazine Salon, le site web Salon en a publié 1325. Donc montre souvent des détenus en position d'humiliation, souvent dénudés, obligés à pratiquer des pratiques souvent homosexuelles. Donc ça faisait référence à un chapitre du livre sur le prétendu rapport complexé des Arabes à la sexualité. Donc là, l'idée, c'était qu'en humiliant ainsi les détenus et en les photographiant, on pourrait constituer un stock de photos pour les faire chanter, etc. Et on pourrait aussi les préparer aux séances d'interrogatoire. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est...
Alors qu'on peut signaler quand même que ça marche ou ça marche pas en tant que moyen de pression objectif sur le moment avec les détenus, mais c'est pas la question de... qu'il soit arabe ou pas, c'est si vous avez des
toute
clichés de humiliante
non consentie devant une caméra est humiliante. Et alors il y a un autre exemple, je crois la technique numéro 35 d'un des répertoires d'interrogatoire renforcés, parce qu'il y en a eu plusieurs. C'était l'idée que les Arabes ont une peur phobique des chiens, et donc en utilisant des chiens pour lors des moments de conditionnement des détenus, c'est-à-dire pour les préparer aux interrogatoires, on parviendrait à briser leur personnalité et donc on faciliterait la tâche des interrogateurs. Ce qui explique pourquoi on voit souvent des chiens dans les photographies publiées.
C'est pareil, c'est amusant. Moi aussi, je n'ai pas particulièrement peur des chiens. S'il y a un berger allemand qui m'aboie et qui me monte les dents, je ne vais pas être bien non plus. C'est là que la racialisation est intéressante. Parce que ce que je veux dire, c'est que concrètement, c'est probablement vérifié pour les examinateurs qui se disent bon, ça marche. Et ça ne marche pas du tout parce qu'ils sont arabes, ça marche parce que c'est terrifiant dans l'absolu.
C'est Judith Butler, la philosophe états-unienne, qui a ironisé sur la pauvreté anthropologique de cette source, parce qu'effectivement, toute personne humiliée sexuellement et face à un berger allemand réagirait probablement de la même manière.
Alors, il faut, enfin, on est obligé d'avancer vite, on pourrait y passer des heures, mais je sais que vous avez un train, donc il faut qu'on avance. Enfin, une troisième rationalisation, on en a déjà fait un peu référence, mais il faut peut-être rentrer un peu plus dans le détail pour terminer. C'est ce que vous avez appelé la rationalisation du moindre mal, qui est un argument très fort, mais qui n'est pas forcément mauvais en soi, mais qui est l'idée que, en faisant certaines choses, certaines actions militaires extérieures, on éviterait d'autres victimes supérieures. Il y a un paradigme, il y a une image qui est même devenue un mème sur Internet depuis, qui est ce qu'on appelle le dilemme du tramway. Alors expliquez-nous ce que c'est.
Ouais. Alors, un préalable, peut-être, cette question du moindre mal a été beaucoup travaillée par Eyal Weizmann, et je m'inspire beaucoup des travaux d'Eyal Weizmann, enfin, c'est important de le souligner. Oui, alors le raisonnement du moindre mal, d'abord, il fait suite à ce qui précède. C'est-à-dire que dans le livre, je montre qu'il y a des déshumanisations de type racialisante, il y a des déshumanisations de type réifiante, mais elles ne sont pas totales. Donc il y a aussi en partie reconnaissance de l'humanité des victimes. On l'a dit pour les aviateurs, mais ça, c'est vrai aussi pour les interrogateurs. Et donc, pour le dire autrement, il y a une conscience qu'on fait du mal quand on tue des personnes innocentes. Conscience qu'on trouve chez les aviateurs, chez les interrogateurs, et chez la plupart des personnes favorables à la guerre contre le terrorisme, je pense. Et donc, cette conscience qu'on fait du mal est intégrée à un raisonnement qui s'appelle le raisonnement du moindre mal, à savoir l'idée selon laquelle le mal qu'on fait est moindre que le mal qu'on permet d'arrêter. Donc, le dilemme du tramway, c'est une illustration un peu idéale typique de cette idée. C'est une expérience de pensée. On imagine qu'un tramway est lancé sur une voie sur laquelle se trouve attachée une personne, ou plutôt cinq personnes. Il y a un système d'aiguillage et sur l'autre voie se trouve attachée une seule personne. Et donc, l'expérience de pensée consiste à se demander si on a le pouvoir d'aiguiller le tramway vers la voie où se trouve une seule personne, est-ce qu'on est capable de le faire ? Et donc, ce raisonnement du moindre mal énonce que, d'un point de vue logique et moral, si on intègre cette logique morale utilitariste par opposition à la logique morale manichéenne, il est préférable de faire une mort innocente plutôt que cinq. Et donc ce raisonnement du moindre...
Et c'est là que c'est très intéressant, c'est que, alors je sais pour avancer un peu vite, mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a d'abord une hyperbolisation du mal, c'est-à-dire, bon, en quelque sorte, si on reprend ce dilemme du tramway, est-ce qu'on est sûr qu'il y avait vraiment cinq personnes sur la voie sur laquelle était engagé le tramway ? Et puis, deuxième chose, qui est euphémisation du mal qu'on fait vraiment, c'est est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a qu'une seule personne sur la voie où on dérive le tramway ?
C'est tout le dilemme. En fait, je pense que la manifestation macroscopique, enfin à grande échelle, du raisonnement du moindre mal, c'est typiquement la guerre humanitaire, plus que la guerre contre le terrorisme, puisqu'il y a trop d'ambiguïté dans le terme. La guerre humanitaire, c'est exactement cela, enfin, c'est ça le dilemme. Et donc moi, ce que je montre dans le livre, c'est qu'il y a souvent ces deux biais, hyperbolisation du mal qu'on veut arrêter et euphémisation du mal qu'on fait. Alors on a parlé de l'euphémisation du mal qu'on fait à travers ces trois raisonnements de non-intentionnalité, de maîtrise et de licéité. Donc sur l'hyperbolisation, c'est typiquement l'histoire des colonnes. Donc la colonne de chars qui allait massacrer Benghazi, ou plus récemment donc les révélations par Jean-Dominique Mercher et d'autres sur la colonne djihadiste qui en fait n'était pas si puissante et n'allait probablement pas prendre Bamako en 2013. Donc dans les récits de justification des guerres humanitaires ou des guerres contre-terroristes, il y a une tendance à hyperboliser le mal qu'on veut arrêter. Donc le mal au sens humanitaire en l'occurrence, donc le mal qui serait fait contre ces populations du Sud.
Mais simplement, on peut dire que c'est une difficulté essentielle, d'un côté comme de l'autre du truc, c'est de faire des scénarios contre-factuels. Ce qui est un truc méthodologique très problématique, c'est-à-dire... on peut pas savoir ce qui... On peut faire des univers, on peut faire des expériences de pensée, etc. On ne peut jamais affirmer... on ne peut constater que ce qui s'est passé, pas ce qui aurait pu se passer. Et encore même constater ce qui s'est passé, on voit que c'est pas toujours facile à faire. Ouais. Donc c'est très difficile méthodologiquement, et pourtant on est quand même obligé de le faire concrètement, puisqu'on raisonne au moment où le décideur est dans un éventail d'options, il est obligé de raisonner sur des hypothèses. Donc on ne peut pas faire autrement que faire des éventails de possibilités qui après deviennent des scénarios contrefactuel, invérifiable.
Ouais, vous avez raison. Mais on peut aussi réfléchir aux biais cognitifs qu'embarquent certaines rhétoriques. Et là, donc, on revient à la question du terrorisme. À mon avis, il y a un gros problème dans cette notion. Outre le problème de l'ambiguïté que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que s'agit de protéger les membres de la communauté nationale ou des autres lointains ? Je pense qu'il est très important de clarifier les choses. Mais il y a un deuxième problème, c'est la logique de la suspicion. C'est-à-dire que dans les pratiques sécuritaires, le terroriste est vu comme un petit criminel aujourd'hui, mais un gros criminel en puissance. Et alors ça, c'est une idée qu'on retrouve notamment dans tous les mémos de l'administration Bush dans les années 2002. C'est un récit qui est très imprégné par les récits de fiction, comme par exemple la série 24 heures chrono, que vos auditeurs et auditrices connaissent peut-être. Donc les terroristes, aujourd'hui, n'ont pas commis trop de crimes, ils ont fait un petit attentat ici ou là, mais ils vont peut-être un jour avoir une bombe thermonucléaire, ou ils vont peut-être mettre la main sur des armes chimiques et déclencher... Et donc, à travers cette projection vers le crime qui n'est pas encore advenu, mais qui pourrait advenir, puisque... On hyperbolise le mal qu'on veut arrêter. Et c'est propre à la notion de terrorisme, y compris à la justice contre-terroriste ou antiterroriste qui s'intéresse aux crimes qui n'ont pas encore été commis, mais qui pourraient l'être.
Et puisque vous mentionnez 24 heures chrono, il faut dire... C'est souvent... Il y a le dixième du tramway, disons, c'est la version intello de la chose, mais souvent, on utilise plutôt les scénarios de 24 heures chrono, où il y a un terroriste, il y a une bombe cachée, et voilà, il faut le faire parler en 7 minutes, donc on utilise la torture, Jack Bauer utilise la torture parce qu'il faut bien. Vous relevez très justement que ça montre toutes les limites de la chose, même si c'est un récit qui permet beaucoup, qui a beaucoup influencé les perceptions, parce que, à vrai dire, tous les spécialistes de la torture savent très bien que les informations qui sont extorquées sous la torture sont très rarement utilisables, en tout cas certainement pas en tant que telles, certainement pas directement opérables. Mais c'est là où c'est intéressant aussi, et peut-être parce que vous en servez de cet exemple, parce que vous étudiez la torture particulièrement, mais il y a des choses qui sont peut-être un peu plus fiables. Par exemple, autant ça marche pas forcément sur le cas de la torture pour savoir où est une bombe, autant... On peut dire que, par exemple, quand il s'agit de faire des attaques sur des groupes, disons dans l'espace irako-syrien, pour éviter qu'il y ait des sanctuaires djihadistes, bon, ça c'est, il y a un gradient, quoi. Il y a aussi des actions où c'est pas toujours faux, quoi. C'est pas toujours absolument fictionnel, et il y a aussi des prospectives qui sont faites, et on essaye aussi d'intervenir avant que des choses se déploient.
Ouais, c'est incontestablement un raisonnement logique. Et donc, il est des cas où ce raisonnement mérite d'être suivi. C'est incontestable.
Et donc, à partir de ça, on peut le répéter, mais je pense que les auditeurs l'auront bien compris. Vous concluez en invitant... On a compris que c'est pas une... L'ouvrage est très critique en le lisant de page en page, on le voit. Mais, en fait, les conclusions sont plus ouvertes, disons, que la critique de chaque page. C'est-à-dire, c'est-à-dire, vous concluez en invitant à, je cite, produire des contre-cadrages qui cassent les procédés d'euphémisation de la violence libérale. C'est-à-dire, globalement, on l'aura compris, à les regarder en face. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de considérer que toute violence libérale est nécessairement illégitime et que, ce qui est une critique qu'on trouve parfois, la critique anti-impérialiste, que toute la violence libérale est le mal en soi et existe par rapport à un monde alternatif où cette violence-là n'existerait pas. Il s'agit simplement, ça n'a rien de simple, mais de faire l'effort de regarder ce qu'elle matérialise, notamment pour les victimes, qui, on peut le répéter, mais une victime collatérale d'une intervention militaire extérieure n'est pas moins tragique qu'une victime d'attentat sur le sol national, quand bien même elle serait moins proche.
Oui, alors le livre est critique, au sens de la théorie critique, ça c'est vrai. Et d'un point de vue normatif, parce qu'il y a une dimension normative en conclusion, il est surtout critique des procédés d'euphémisation de la violence qu'on retrouve en dehors du champ militaire. C'est-à-dire que j'ai mis la focale sur le champ militaire pour comprendre des mécanismes, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que les raisonnements qui animent les militaires sur lesquels j'ai travaillé ne sont pas des raisonnements militaires, ce sont des raisonnements qui nous constituent toutes et tous. Et donc la critique, elle porte peut-être davantage sur pour les politiques, pour les acteurs humanitaires, pour les journalistes, qui reproduisent parfois sans trop de réflexivité des cadrages politiques. Et donc, dans la conclusion, j'esquisse des pistes pour élargir le cadre. Je crois que la notion de cadre que j'emprunte à Judith Butler est intéressante. Un cadre, ça délimite une certaine réalité, donc ça maintient hors du cadre un certain nombre de réalités, donc les dégâts collatéraux, typiquement, dans le discours public, plus que chez les militaires qui savent un peu mieux ce qu'ils font, les dégâts collatéraux sont pratiquement hors cadre. Et donc l'idée, c'est d'élargir le cadre et pour comprendre que ces personnes qui ne sont pas tuées de manière intentionnelle et qui sont tuées de manière légale et qui peuvent être tuées de manière proportionnelles à l'effet militaire recherché sont des personnes. Elles ont une histoire, elles ont un nom, elles ont une famille. Et donc, pour élargir ce cadre, moi, je propose pas de rompre avec le libéralisme politique. C'est pas du tout mon propos. J'ai une section de mon ouvrage sur Albert Camus, le Albert Camus des lettres à un ami allemand. Donc, c'est le Albert Camus des années 1943-44, qui me semble être un exemple intéressant de libéralisme critique, au sens de libéralisme réflexif. Donc, dans ces quatre lettres publiées entre 43 et 44, Camus est, contrairement au Camus d'après 45, Camus est complètement engagé dans une entreprise violente, à savoir la résistance et l'effort de guerre alliés. Par ailleurs, Camus fait plusieurs fois référence au bombardement stratégique. On parle bien d'une violence réelle, hein, plus que les attentats perpétrés par les résistants à l'époque. Donc Camus est complètement engagé dans une résistance violente, dans une entreprise violente, et en même temps, Camus se pose de manière constante le problème de la violence. Et Camus se refuse, et c'est absolument explicite dans les lettres, à euphémiser la violence des résistants slash des alliés, et à hyperboliser la violence nazie, qui s'hyperbolise très bien elle-même par ailleurs, compte tenu de son volume et de sa monstruosité. Et donc c'est cette attitude-là que moi j'appelle de mes voeux, donc une attitude libérale critique, réflexive, sur les procédés d'euphémisation de la violence libérale.
Merci beaucoup Mathias Delory.
Merci Alexandre Dublin.
Alors je rappelle donc les références de votre ouvrage, Ce que vaut une vie, théorie de la violence libérale, paru aux éditions Amsterdam. Je vais simplement dire que même si on l'aura compris, j'ai en fait parfois des remarques sur tel ou tel point de votre argumentation, qu'on n'a pas tout développé d'ailleurs, mais d'une part c'est un débat et un échange qu'il faudrait faire surtout par écrit, qui se prête beaucoup plus je crois à l'échange écrit serré et précis qu'une discussion d'une heure et demie à l'oral où il s'agissait vraiment d'exposer votre propos et votre angle et votre objectif avec cet ouvrage. Et j'espère qu'elle se fera. Mais surtout, ça note rien au fait que je trouve le fond de l'argumentation extrêmement stimulante parce que ça force vraiment à faire l'effort de regarder ce phénomène qu'est la lutte contre le terrorisme de manière différente, sans doute décentrée, ce qui est éminemment souhaitable et l'un des objectifs des études critiques. Et en cela, c'est tout à fait réussi. Donc merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques, de vos commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, qui sont toujours les bienvenus, tout comme vos notes et commentaires, notamment à travers Apple Podcasts ou SoundCloud, ce qui aide grandement à la visibilité du podcast, tout comme le fait que vous le recommandiez sur les réseaux ou ailleurs à vos proches, ce qui est vraiment le cœur de la croissance du Collimateur. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.